Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans les semaines précédentes, on se rappelle que Ruth, Naomi, eh bien, en fait, que la famille de Naomi, pardon, avec son mari, ses deux enfants, avait été faire un séjour, était censé faire un séjour à Moab à cause de la famine qui existait en Israël, qui sévissait en Israël. Et bien, ce séjour devait durer quelque temps, finalement, a duré 10 ans. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. Et ses deux belles-filles se sont retrouvées veuves. Une des deux belles-filles a décidé de rester dans son pays, à Moab, et l'autre, Ruth, a décidé de suivre sa belle-mère, suivre aussi son Dieu, adopter son Dieu, ainsi de suite. Et elles reviennent dans leur ville, à Bethléem. Les gens, Naomi, elle est méconnaissable. Les gens, eh bien, sympathisent avec elle, compatissent avec elle. Et on a rappelé qu'elles sont venues au commencement de la moisson des orges, donc une période bien particulière en Israël. Et en tant que veuve, eh bien, elle n'avait pas le secours populaire, elle n'avait pas l'aide sociale et ni l'assurance chômage à cette époque. Mais Dieu, dans la loi, avait prévu des choses pour les veuves et pour les orphelins. Et ici, au chapitre 2, eh bien, on voit que Ruth décide de prendre des choses en main. Elle fait confiance au Seigneur et on va lire les 16 premiers versets. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Vous vous souvenez, on avait vu ça la semaine passée, hein? Il y a 2 semaines, pardon. On avait vu ça. On n'avait pas dit qu'elle l'avait trouvé par hasard, mais par bonheur. Donc Dieu l'avait vraiment guidée. Et voici, Boaz vient de Bethléem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, « Chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas de l'année dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Et ça pourrait être notre prière aujourd'hui, hein? En s'adressant au Seigneur, « Seigneur, comment on a pu trouver grâce à tes yeux, nous qui étions des étrangers à tes promesses, étrangers à ton peuple? » C'est une belle prière qu'elle fait là, hein? Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant? Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. » Et c'est ce que le Seigneur a fait aussi avec nous, hein? Il nous a consolés et il a parlé à nos cœurs. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, c'est-à-dire des épis grillés. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproche. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci ce matin pour cette parole que tu nous as laissée. Le psalmiste a écrit que ta parole, elle est éprouvée. Et Seigneur, quand nous te désobéissons, nous savons, Seigneur, que cette parole, elle a déjà fait ses preuves dans le passé, et que les avertissements que tu nous donnes, eh bien, Seigneur, elles ont été vécues par d'autres qui nous ont précédés, avec toutes ces conséquences. Et il en est de même pour nous, Seigneur. Nous faisons partie de la même race humaine. Et nous subissons aussi nos conséquences, les conséquences de nos désobéissances. Pourtant, tu nous avertis. Et ce matin, Seigneur, à travers ce passage, tu veux nous réconforter. Tu veux nous encourager. Tu veux nous démontrer que tu es toujours présent au milieu des tiens. Que tu prends un soin jaloux, Seigneur, de tes enfants. Et que tu veux pourvoir à ses besoins. Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre notre esprit afin que nous... Notre intelligence peut se grandir à travers ta parole. Parce que, Seigneur, ton esprit qui habite en nous, Seigneur, nous enseigne toute ta vérité. Que l'homme ne parle pas, Seigneur, ce matin, mais que tu parles à travers l'homme, afin que nous puissions être enrichis de ta présence et de ton amour. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Le peuple de Dieu dit Amen. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'auteur... Lorsqu'il parle de Ruth, il mentionne régulièrement que c'est Ruth la Moabite. On dirait qu'il prend un malin plaisir, pas à dire voici Ruth, mais Ruth la Moabite. Il prend un malin plaisir à nous rappeler constamment c'est quoi son arrière-plan, quoi. D'où elle vient cette femme, quoi. Comme s'il voulait nous rappeler que Ruth n'est pas une Israélite de naissance, mais une étrangère qui venait d'ailleurs et quelqu'un que Dieu a invité à faire partie de son peuple. Et ce, même si c'était une Moabite, qui appartenait à un peuple que Dieu avait maudit. Nous voyons ici en Ruth un exemple qui correspond à chaque expérience chrétienne. Et j'aimerais ce matin que, quand on va parler de Ruth, qu'on puisse placer notre nom à la place de Ruth. Parce que je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce que Ruth a vécu, ou ce que Ruth vit, puisqu'on va parler d'elle ce matin, et ce que vous avez vécu tous et chacun ici. Et cette expérience qui est commune à chacune, c'est celle d'être acceptée par le Rédempteur, qui nous conduit à vivre dans un endroit parmi les rachetés qui s'appelle l'Église. Et Boaz, on en a parlé au début, Boaz ici, c'est une figure, c'est un type, c'est une image de Christ le Rédempteur. Et il est bon de rappeler que lorsque nous parlons de Boaz, en tout cas, il est bon de rappeler... afin de ne pas tomber dans l'erreur que certains ont fait, il est bon de rappeler que c'est pas Jésus qui est apparu dans sa préincarnation dans l'Ancien Testament, qui est apparu à Ruth pour la bénir et ainsi de suite et pour lui parler. C'est vraiment Boaz qui représente un type de rédempteur. Et sa façon d'accepter Ruth correspond à la manière dont Christ, notre rédempteur, nous accepte. Et si nous saisissons ce matin la façon que Boaz accepte Ruth, nous saisirons de quelle façon Christ nous accepte et nous reçoit. J'aimerais qu'on regarde ensemble rapidement quatre parallèles dans la façon que Boaz a reçu Ruth et la façon que Christ, notre Rédempteur, nous reçoit. D'abord au verset 5. Il est écrit au verset 5 que Boaz demande à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs à qui est cette femme. Il ne dit pas qui est cette femme. En français courant, on traduit qui est cette femme, mais ça, c'est une erreur d'interprétation, c'est à qui est cette femme. Est-ce que cette femme, elle est mariée? Est-ce qu'elle est célibataire? À qui est cette femme? Il dit pas qui est cette femme. À qui est cette femme? À qui appartient cette femme? Et là, ça, c'est important, cette nuance. Et il voit que Ruth ne fait pas partie de l'équipe des moissonneurs. C'est une étrangère et elle vient de l'extérieur. Et le propriétaire de ce champ, qui s'appelle Boaz, est un homme puissant et riche, et il jette un regard sur Ruth. Il aurait pu faire son indépendant, dire... Elle n'est pas digne que je regarde, que jette un regard sur elle. Elle vient d'un peuple qui est maudit. Je détourne mon regard sur elle et je garde mon regard sur les moissonneurs qui sont en train de moissonner dans mon champ. Et c'est une image de Christ, ça. Une image de Christ qui, dans l'humilité, se descend sur la terre, vient nous voir, nous qui sommes des étrangers du royaume, qui n'étaient pas obligés de porter un regard sur nous, et pourtant la Bible nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, dont vous faisiez partie du nombre et dont je faisais partie du nombre. Cette femme, elle est remplie d'humilité et elle est dans le besoin. Encore une fois, nous avons ici une image de la manière dont notre Seigneur Jésus porte un regard sur les besoins des pécheurs, comme vous et moi, et qu'il prend soin de nous. Paul dit, dans le passé, nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes et de nos péchés, mais la bonté de Dieu a été si grande, elle est si grande, si riche, et son amour pour nous est tel. Il nous a fait revivre avec le Christ. On était morts spirituellement, c'est-à-dire sans espérance, avec ce poids de condamnation sur nos épaules. Et Dieu, dans son amour, qui est riche en miséricorde, eh bien, nous a fait revivre, naître de nouveau à travers la mort et la résurrection de Christ pour que nous faisions partie de ce peuple de ce peuple de Dieu qui est représenté par l'Église aujourd'hui. Dieu a jeté un regard sur ceux qui étaient spirituellement morts, même si ceux-ci ne faisaient aucunement attention à lui. Comme Boaz, le rétablisseur de Ruth, Jésus, notre Rédempteur, s'intéresse particulièrement à chacun de nous. Ce matin, vous me regardez, il y en a qui ont le visage un peu plus long que les autres, il y en a qui ont les yeux plus fatigués que d'autres, il y en a qui sont plus joyeux que d'autres. En tout cas, c'est ce que vos visages me laissent paraître. Mais le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur Jésus qui est vivant, il connaît le besoin particulier de chacun d'entre vous. Il connaît votre souffrance si vous êtes dans la souffrance ce matin. Il connaît la cause de votre joie si vous êtes dans la joie ce matin. Il connaît la cause de votre tristesse si vous êtes dans la tristesse ce matin. Et il connaît la raison pour laquelle vous n'avez pas cette joie, cette paix qui surpasse toute intelligence ce matin. Frères et sœurs, ce matin, mes amis, Dieu s'intéresse à votre cas, à chacun en particulier. C'est ça qui est merveilleux. Moi, ici, j'annonce la parole à tout le monde ce matin. Je ne suis pas capable de lire dans vos cœurs. J'aimerais être capable de lire dans vos cœurs. J'ai déjà de la difficulté à lire dans le mien. Il n'y a que Dieu qui peut réussir à me comprendre parfaitement. Mais Dieu, lui, vous comprend parfaitement. Moi, je suis ici simplement pour vous donner sa parole. Et ce matin, j'ai la certitude que tout ce qui va se dire ici, eh bien, Dieu a une parole en réserve pour chacun d'entre vous. Parce que chacun d'entre vous, vous n'êtes pas rentré ici pour rien. Vous n'êtes pas rentré ici pour perdre votre temps ou de perdre une matinée, surtout quand il fait un beau soleil comme ça. Dieu a quelque chose à vous donner ce matin. J'espère que vous avez la certitude dans votre cœur que Dieu veut que vous receviez quelque chose de sa part ce matin. Vous dites amen à ça? Tournez avec moi dans Marc chapitre 9, versets 17 à 24. C'est le passage qui nous parle du fils qui était possédé d'un esprit muet. On ne lira pas tout le passage, vous le connaissez, mais simplement que vous puissiez jeter un œil sur ce passage-là, les versets 17 à 24. On voit que cet homme était tellement découragé, tellement énervé. Il n'avait aucun moyen de s'en sortir, ni aucun moyen, ni aucun endroit où aller. Le texte nous dit que dès son enfance, cet enfant était pris de cet esprit. Il est venu le cœur brisé rencontrer le Seigneur Jésus, car depuis son enfance, son fils est secoué par un esprit mauvais. Et là, il s'approche de Jésus et il dit, « Aie pitié de nous et aide-nous si tu peux. » Pas « Aie pitié de mon fils. » « Aie pitié de nous et aide-nous si tu peux. » En d'autres mots, Jésus, si tu peux faire quelque chose pour nous, viens à notre secours. Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, cet homme désespéré, découragé, découvre quel est le vrai problème. Jésus lui a dit, « Tout est possible pour celui qui croit. » Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se demande s'il croit. Il réalise que le problème n'est pas du côté de Jésus. Il réalise que le problème est de son côté. Il se demande s'il croit. Il détecte en lui un germe, du moins un grain, une semence de foi. Il a au moins suffisamment de foi pour dire, « Je crois Jésus, mais aide-moi car j'ai de la peine à croire. » Ou en d'autres mots, il dit, « Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus trouve en lui cette foi pas plus grosse qu'un grain de moutarde, cette petite présence de foi dans son cœur qui lui permet de crier, « Au secours, Jésus. Au secours. J'endure ce que mon fils endure depuis qu'il est tout jeune. Jésus, viens à notre secours. » Et le texte nous dit que Jésus va avoir pitié de lui. Il va porter une attention particulière à sa prière. Et dans sa bonté, il va guérir son fils. Amen. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. C'est le passage de la femme qui avait des pertes de sang, qui souffrait d'hémorragie. On n'a pas besoin de dire où venaient les pertes de sang, on peut s'imaginer facilement. Mais vous imaginez pendant 12 ans un saigner sans interruption. Vous imaginez la faiblesse de cette femme. Et en plus, rejetée par la loi parce qu'elle était impure. Une femme qui avait des pertes de sang était impure. Et parce qu'elle était impure, elle était isolée du peuple. Elle vivait seule. Ça faisait 12 ans, nous dit le texte, qu'elle souffrait. Verset 43-48. Et elle va se frayer un passage à travers la foule. Elle va s'approcher de Jésus par derrière pour toucher le bord de son vêtement. Moi, ce que je trouve d'extraordinaire dans ce passage-là, il me marque à chaque fois que je le lis. Écoutez, il y a une foule, donc c'est plusieurs milliers de personnes. Quand la Bible utilise le mot « foule », c'est que c'est des milliers de personnes. Je suis convaincu que cette journée-là, il n'y a pas juste cette femme qui est malade. Je suis convaincu que cette journée-là, il n'y a pas juste cette femme qui a besoin d'être guérie. Mais vous savez, c'est quoi la différence entre cette femme et toute la foule qui est là? C'est la foule, elle vient, elle, comme spectatrice. Elle vient voir Jésus, mais elle ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit de lui. Cette femme, ça fait 12 ans qu'elle saigne. Ça fait 12 ans qu'elle est victime d'hémorragie. Si vous lisez le texte dans les autres textes parallèles, on nous dit qu'elle a dépensé, elle a rencontré une multitude de médecins. Ils lui ont vidé ses poches. Ils l'ont siphonné dans son argent. Et quand elle n'avait plus rien, plus aucun secours, plus aucun moyen d'être guérie par les médecins, bon, ben Seigneur, il y a juste toi qui peux faire quelque chose. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire comment souvent on est égoïste et que j'ai dit tantôt, hein, pourquoi Dieu permet qu'on soit malade des fois. Le dernier de ses soucis, c'était de rencontrer Jésus. Tant ou si longtemps qu'elle avait de l'argent. Et ce qui est extraordinaire dans ça, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui vont toucher à Jésus. Mais ils n'avaient pas la foi suffisante pour recevoir de Jésus. Elle va s'approcher, peut-être en rampant à genoux. Elle va toucher le bas de son vêtement, nous dit le texte. Et malgré que Jésus t'a bousculé de tous côtés, il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et il se retourne, et il voit cette femme, qui est guérie. Et il lui dit, va, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est le seul texte dans tous les évangiles où Jésus fait une relation filiale avec quelqu'un lorsqu'il dit « ma fille ». Il n'utilisera jamais ce mot de parenté ailleurs lorsqu'il intervient, soit pour une guérison dans ses paroles. Il va dire « ma fille, ma fille ». Ça veut dire quoi? Non seulement ta foi t'a guéri physiquement, mais aussi spirituellement. Et le texte confirme ce que je suis en train de dire, puisqu'elle va se jeter à genoux, elle va lui raconter pourquoi elle est venue. Et je suis persuadé qu'elle lui dit « Seigneur, je te demande pardon ». Pardon, Seigneur, d'avoir pensé à toi lorsqu'il n'y avait plus aucun espoir d'être guéri. Pardon. Et le texte nous dit que Jésus lui a jamais reproché quoi. Jésus connaît nos cœurs. Il sait de quoi on est fait. Il sait qu'on passe souvent le deuxième, le troisième et le dernier. Il passe souvent le deuxième, le dernier dans notre vie. Et il nous ne fait pas de reproche. Il est toujours là en train de nous attendre pour qu'on soit touché par sa grâce. Et heureusement qu'il n'est pas rancunier. Amen. Heureusement qu'il n'est pas rancunier, quoi. Et cette femme, elle repart. Elle est complètement guérie. Et je suis convaincu que ceux qui ont essayé de toucher à Jésus, qui n'ont pas été guéris, vas-y, mais comment elle a fait, elle? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? À cause de ton manque de foi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Ouais. Facile de jeter quand on n'est pas guéri, quand on ne reçoit pas. Je ne suis pas en train de dire que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit toujours guéri. Là. Et je ne suis pas en train de dire que parce qu'on n'est pas guéri, le problème est uniquement sur de notre côté, quoi. Hein? Je suis en train de dire simplement que souvent, quand on n'est pas exaucé dans nos prières, on reporte facilement le blâme sur Dieu. Et on oublie de s'examiner, quoi. Pour se dire, est-ce que le problème ne sera pas de mon côté aussi? Est-ce que j'ai simplement fait une demande à Dieu machinalement, sans même y mettre un grain de moutarde de foi dans ma demande, quoi? Je l'ai fait par routine. Hey Seigneur, tu connais mes besoins, hein? Combien, ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, dans ma vie de chrétien, jeune chrétien, tu as toute une liste de prières, tu te présentes le matin, t'es occupé, il te reste 2 minutes, tu dis, Saint-Seigneur, toi qui connais tout, qui sais tout, viens, ramasse ma liste, et puis, bon, ben, bénis tout ça. Vous pensez que le Seigneur a le temps? J'ai pas le temps de bénir, quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les textes des Écritures nous disent qu'on doit être spécifique dans nos prières. Spécifique. On doit les apporter une par une au Seigneur. Et dans un esprit de foi, eh bien, Dieu, la volonté de Dieu, va s'accomplir. Nous avons un Rédempteur qui nous voit et qui s'intéresse à nous. Il reconnaît votre besoin avant même que vous reconnaissiez votre besoin. Voilà pourquoi la pire chose que nous pouvons faire, c'est d'être prétentieux au point de ne pas reconnaître notre besoin constant de lui. Parce que Jésus reconnaît déjà ce dont nous avons besoin aujourd'hui. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est d'abandonner notre péché, si c'est le cas. C'est reconnaître notre besoin de lui. Nous présenter devant lui avec nos craintes, avec nos inquiétudes, et lui les remettre entre les mains. Notre rédempteur, frères et sœurs, les connaît déjà. Il a l'œil aiguisé pour reconnaître ce dont nous avons besoin. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que nous avons un rédempteur qui connaît notre besoin? Deuxième parallèle. Verset 8. Vous avez peut-être remarqué au verset 8, Boaz dit, « Ne va pas de l'année dans un autre champ. » En d'autres mots, ne part pas. Comme s'il allait vers elle pour la rassurer en lui disant, « Ne va pas de l'année dans un autre champ. Je sais que tu pourrais penser que je suis ici pour te chasser, mais je te dis, ne pars pas, tu n'as rien à craindre. Ne pars pas d'ici, ne va pas de l'année dans un autre champ. Reste ici. Et lorsque tu auras soif, hein, c'est le texte qu'il dit, eh bien, bois l'eau que je donne à mes serviteurs. » Frères et sœurs, ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus, ça, qui a dit un jour, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Au verset 15 et 16, Boaz va pourvoir au-delà de ce qu'elle pouvait espérer. Il va ordonner à ses serviteurs de ne pas lui nuire, mais de la laisser glaner afin de pourvoir aux besoins de Ruth. Et de la même manière, frères et sœurs, lorsque notre Rédempteur Jésus-Christ a pris connaissance de notre besoin, il s'empresse de pourvoir non seulement notre besoin physique, mais aussi notre besoin spirituel. Petit à petit, il va diriger nos pensées, les pensées de notre cœur vers lui. Il va nous nourrir, il va nous satisfaire, autant sur le plan physique que spirituel. Avez-vous remarqué au verset 18 qu'elle a été invitée à manger à sa table, qu'elle a été comblée et qu'elle a pu garder les restes? Cela nous démontre jusqu'à quel point elle a bénéficié de la générosité de Boaz. Il a pourvu au-delà de ses besoins. Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, bénéficié de la générosité de notre Rédempteur Jésus-Christ? Il nous nourrit de sa personne. Il dit, « Je suis le pain de vie. » Il nous donne son esprit. Et cet esprit habite en nous et déborde en source d'eau vive. Quelle attitude d'humilité, frères et sœurs, nous retrouvons chez Ruth, n'est-ce pas? Elle dit au verset 10. Eh bien, on peut lire le verset 10 ensemble. Hein? Le texte nous dit, « Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre elle. » Et elle lui dit, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux? » Et frères et sœurs, un des problèmes à prêcher un évangile qui est dilué, c'est que ça empêche les gens de réaliser la gravité de leur situation en dehors de Jésus-Christ. Elle dit ici, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux? » Et dans nos prières régulièrement, si on saisit bien la portée du sacrifice de Jésus à la croix, on pourrait tomber face contre terre et dire, « Seigneur, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux? » Alors, vous n'avez pas fait de gros péchés? C'est pas grave. Je vais simplement vous ramener au jardin d'Éden. Ça abrite combien de péchés à Adam et Ève pour être chassés du jardin et perdre leur communion avec Dieu? Et à ce niveau-là, on est tous égaux aux yeux de Dieu. Et dans un esprit d'humilité et de reconnaissance, on peut dire au Seigneur, « Comment, Seigneur, ai-je pu trouver grâce à tes yeux? » Quel esprit d'humilité cette femme a là, quoi! Combien elle reconnaît la gravité de sa situation et la générosité de son Rédempteur, Boaz, pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère. Il a pourvu, Boaz a pourvu au-delà de ses besoins. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'a pas bénéficié, nous aussi, au-delà de la générosité de notre Rédempteur Jésus-Christ? Il nous nourrit de sa personne, il dit, « Je suis le pain de vie. » Tout ce qu'elle est en train de dire ici dans ce texte, simplement verset 10, ça transpire, ça baigne d'humilité. Et de la même manière, lorsque nous nous humilions, que nous levons les mains vers lui, que nous sommes prêts à recevoir Jésus-Christ, que nous apportons les péchés qu'il a mis en lumière dans nos vies, que nous confessons notre besoin de lui, il pourvoit, il répond. Il s'empresse de nous protéger de tous nos ennemis et de tous ses ennemis, nous dit le psalmiste. Troisième parallèle, rapidement. Boaz a reconnu, versets 10 et 11, le dévouement de Ruth envers sa belle-mère et il va la récompenser. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Frères et sœurs, on est en présence d'une croyante, d'une chrétienne qui a fait un véritable pas de foi. Il y a combien de gens qui lèvent la main? Il y a combien de gens qui acceptent Jésus-Christ? Il y a combien de gens qui se font baptiser? mais qui n'abandonneront jamais leur ancienne vie, qui n'abandonneront jamais leur ancien Dieu, qui n'abandonneront jamais le monde pour le royaume de Dieu. Ici, le texte nous dit qu'elle a tout quitté. Elle a tout quitté. Elle a fait non seulement ce pas de foi, mais elle a pris une décision. Ma vie passée, c'est derrière moi, c'est terminé. Les valeurs du monde, j'ai fait une croix dessus. Les amis du monde, j'ai fait une croix dessus. Dieu m'a donné une nouvelle famille. Dieu me permet d'appartenir à un nouveau royaume. Dieu me donne des nouvelles valeurs, des nouveaux principes de vie. J'ai dirigé dans le monde ma vie comme bon me semblait. Maintenant, je laisse Christ diriger ma vie dans son nouveau royaume comme bon lui semble. Un des gros problèmes avec le cheap gospel, avec l'évangile à bon marché, c'est ça, quoi. Accepte Jésus-Christ et t'es sauvé. Change pas ta vie, reste comme cela. Dieu veut pas t'enlever tout ce qui te plaît dans le monde. Garde-le avec toi, amène-le avec toi dans l'Église. Et la Bible est claire, hein? On ne peut pas être ami du monde et être ami de Dieu. C'est impossible. Dieu ne travaille pas avec des cœurs partagés. Et heureusement. Il est vrai que Jésus récompense les œuvres de ceux qui lui appartiennent. Non seulement il nous donne la capacité d'accomplir de bonnes œuvres, mais il nous donne aussi la capacité d'agir pour ensuite nous donner la puissance dont nous avons besoin par son esprit pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il a fait l'œuvre en nous et il nous récompense ensuite pour l'œuvre que nous avons accomplie pour la gloire de son nom. Il m'est arrivé dans le passé que des gens me demandent de prier pour quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup. Par exemple, un voisin, un collègue, un ami. Tout cela est louable et j'aime bien le faire et j'aime toujours le faire. Mais quelquefois, ils franchissent une étape supplémentaire en disant « Prie aussi pour mon fils. Il a tellement bon cœur. Il ferait un si bon chrétien. » Mais ça, c'est une grave erreur parce que Dieu ne sauve jamais quelqu'un pour le potentiel qu'il a, afin qu'il puisse amener des gens dans son royaume. Dieu ne sauve jamais quelqu'un sur la base des œuvres futures qu'il pourra accomplir pour le royaume. Dieu récompense les œuvres de ceux qu'il sauve parce qu'il les voit à travers l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Dieu nous voit uniquement dignes à travers la personne de Jésus-Christ. Dieu ne sauve pas quelqu'un, je le répète, pour le potentiel qu'il pourrait avoir pour amener les âmes à Jésus-Christ dans le royaume. Non. Dieu nous sauve quelqu'un parce qu'il est perdu pour l'éternité. Dieu sauve quelqu'un parce qu'il l'aime et il le démontre à la croix. Lorsque je reconnais que Dieu me récompense à cause de l'œuvre que Jésus a faite en moi, non seulement je veux accomplir davantage des choses pour le royaume, mais je veux le louer et l'adorer pour la grâce qu'il m'a faite de le servir et je veux dire avec eux, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis un étranger. Dernièrement, un dernier point. Avez-vous remarqué que Boaz se présente auprès de Ruth et auprès de ses serviteurs comme quelqu'un qui a une relation intime avec eux? Hey, c'est un gars qui est plein de pognon, hein? C'est un gars qui est indépendant. Vous les connaissez, les gens qui sont pleins de pognon à l'extérieur? Ils sont ouvrés les portes, on les salue. La porte de la voiture, la porte de l'hôtel, on les salue. Ils ont de la difficulté à vous regarder. Boaz, il est riche. Il est riche à craquer. Hein, le texte hébreu nous dit qu'il est riche, il est puissant. Et toute la richesse qu'il a. Et on voit dans le texte que Boaz se présente auprès de Ruth et de ses serviteurs comme quelqu'un qui a une relation intime avec eux. Il leur donne à ses serviteurs de répondre aux besoins de Ruth. Et il lui garantit qu'elle peut se mêler à eux sans problème. Vous avez peut-être remarqué au verset 14 qu'il invite Ruth à manger avec lui. Il est écrit, « Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, et ça va nous introduire dans la Sainte Cène, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna des épis grillés. Elle en mangea autant qu'elle en voulut, elle mangea et elle garda le reste. C'est une sorte de privilège que Boaz lui accorde en lui permettant de tenir le bol de vinaigre que les serviteurs se passent de main en main en disant « Trempe ton morceau de pain dans le même bol que j'ai trempé le mien. » Frères et sœurs, n'est-ce pas la même chose qui est arrivée lors du dernier repas du Seigneur? Jésus se partageait cette même coupe, cette même intimité avec ses disciples et avec Judas, qui non seulement eu l'audace de prendre la coupe qui lui était présentée avec les autres disciples, mais qui a utilisé le privilège qu'il avait de partager cette relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ pour le trahir. C'est dommage qu'on ne fait plus ça dans les églises. Au début, on le faisait. On prenait la coupe et les gens trempaient le pain dans la coupe. Et on partageait ainsi le repas du Seigneur ensemble. Frères et sœurs, vous savez que notre Rédempteur nous rappelle que nous pouvons vivre la plus profonde des intimités avec lui lorsqu'il nous invite à partager ce repas avec lui autour de sa table comme symbole de notre communion avec lui. Frères et sœurs, ce n'est pas une habitude qu'on prend. C'est un privilège. C'est une invitation à chaque fois que le Seigneur nous offre. C'est une invitation à chaque fois que le Seigneur nous présente. Ça nous rappelle aussi non seulement son amour, mais la communion intime qu'il veut entretenir et développer avec nous. Comme Boaz avec Ruth, il l'invite à partager à sa table. Il lui dit « Trempe ton pain ». Elle se considère comme une étrangère. Elle reconnaît que c'est une grâce qu'il lui fait. Et frères et sœurs, la Sainte Cène nous rappelle que c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous a fait à travers Jésus-Christ, à travers le pain, à travers le sang. Donc, de faire partie de sa famille, d'avoir cette espérance vivante, comme Pierre dit. Hein, le mot espérance dans les épîtres de Pierre, elle transcende hein, presque à tous les chapitres. Frères et sœurs, une espérance vivante. Non seulement de passer l'éternité ensemble, mais dans tout ce que Dieu est en train de nous préparer. Jésus est là en train de dire, venez, prenez cette coupe et ce pain avec moi. Venez communier avec moi. Entrez dans une relation d'amour intime et profonde avec moi. Nous ne nous présentons pas seuls à la table du Seigneur, mais avec tout le corps de Christ. Ce n'est pas individuel, le repas du Seigneur. Mais c'est tous qui partageons la même espérance, qui avons ce privilège de participer au repas du Seigneur. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, quoi. Et la table du Seigneur, lorsque nous le prenons, nous démontrons que non seulement nous sommes en communion avec Dieu, mais que nous sommes aussi en communion avec les membres du corps de Christ, avec ceux qui font partie de la famille. Se priver parce qu'on n'est pas en règle avec un membre, c'est une chose. Mais d'abord, on doit s'examiner pour savoir si notre vie est en règle avec Dieu, que nous ne voyons pas. Souvent, on se prive de prendre le repas du Seigneur avec un membre parce qu'on n'est pas en règle avec un membre, parce que le membre va nous voir si on prend la Sainte Cène, alors qu'il sait très bien qu'on n'est pas en règle avec lui. Et ce qui est aussi important, c'est ce Dieu qui nous voit pas parce qu'il est, ce Dieu que nous ne voyons pas parce qu'il est esprit, lui nous voit. Et c'est pour ça que Paul dit « Examinez-vous vous-même pour ne pas recevoir les foudres. » On ne prend pas la Sainte Cène pour rien. Écoutez, le Seigneur nous amène à partager sa table avec lui, c'est extraordinaire, quoi. Et ça préfigure toutes ces noces de l'agneau que Dieu est en train de nous préparer. Le repas du Seigneur ne représente pas une expérience individuelle vécue entre moi et le Seigneur. Le repas du Seigneur représente toujours cette communion que les membres du peuple de Dieu ont avec lui et entre eux. Lorsque le Rédempteur nous invite à sa table, il nous invite à s'asseoir au milieu des rachetés. Tout comme Boaz, le Rédempteur de Ruth, l'a invité à s'asseoir avec lui, elle fut aussi invitée à s'asseoir parmi les moissonneurs, non seulement pour montrer qu'elle était acceptée, mais pour manifester qu'elle pouvait participer et vivre cette relation intime et étroite avec son peuple racheté. Alors, je voulais mettre l'accent sur ce point ce matin. Et je vais continuer encore 2-3 minutes. Faire partie du peuple de Dieu, c'est entrer en communion avec Dieu. Et être en communion avec Dieu, c'est faire partie du peuple de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. La même vérité ressort ici dans notre passage dans les paroles de bénédiction prononcées par Boaz au verset 11 et 12, si vous avez votre Bible. « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? En d'autres mots, écoute, tu as quitté ton peuple pour te joindre à ce peuple. Tu as abandonné tes dieux pour venir vers l'Éternel. En te joignant à Dieu, tu t'es joint à ce peuple. Et vous trouverez cette vérité se répéter à de nombreuses reprises tout au long de l'Ancien Testament. Si vous acceptez de venir à l'Éternel, vous acceptez de vous joindre à son peuple. Les chrétiens Robinson Crusoe, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'est pas capable de fréquenter l'Église, il y a un problème, quoi. Déjà qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui fréquentent l'Église, à combien plus forte raison quelqu'un qui se dit chrétien qui ne fréquente pas l'Église, il y a un sérieux problème, quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous la voyez à travers Rahab, la prostituée? Vous rappelez-vous comment Rahab s'est tourné vers le vrai Dieu vivant? Il y avait un prêt à payer pour cette prostituée pour faire partie du peuple de Dieu, hein? Pour y arriver, elle a dû, dans un sens, couper les liens, et même dans les faits, trahir son propre peuple. Elle devait rejoindre l'Éternel, et en acceptant de faire ce pas, elle acceptait de couper les ponts, les contacts avec son peuple d'origine, pour se joindre au peuple de Dieu. Elle trouve refuge en lui, et en même temps, elle trouve refuge auprès du peuple de Dieu. Est-ce que vous réalisez que la Bible dépeint ici l'expérience de Ruth? Pour entrer dans une relation d'alliance avec le Dieu d'Israël, il faut aussi devenir un avec son peuple. Et ça, je vais vous dire une chose, je pense que c'est l'enseignement de toute une vie. On vit dans un monde tellement individualiste qu'on vient à l'Église. Je ne juge pas personne, je parle en général, je m'inclus là-dedans en plus. Parce qu'on m'a dit ici qu'en Belgique, « on », ça inclut la personne qui parle. Au Québec, si vous dites « on », ça exclut la personne qui parle. Donc, vous voyez qu'un continent à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, les règles de grammaire ne s'appliquent pas nécessairement partout, de la même façon. Mais on rentre le dimanche, et combien de fois il y a certaines personnes qui viennent, et c'est pour, ils viennent entendre, ils viennent participer à leur culte, ils viennent entendre le message que Dieu a pour eux, ils viennent louer le Seigneur parce qu'ils ont des choses à lui raconter. Et qu'en est-il de la communion qu'ils ont avec le peuple de Dieu? Je viens à l'église le dimanche matin parce que je sais que Jésus-Christ est présent. Amen. Je viens à l'église le dimanche matin parce que tous ceux en principe qui participent à ce culte du dimanche matin ont la même espérance que moi. Ce sont tous des rachetés par grâce. Ce sont tous des gens, des frères et sœurs en Jésus-Christ qui vivent différents problèmes. Mais je suis là pour avoir compassion, je suis là pour les encourager, je suis là pour les fortifier, je suis là pour les exhorter. Je rentre pas dans l'église pour les condamner et pour me comparer à un et à l'autre. Si on veut se condamner, on veut condamner quelqu'un, qu'on veut se comparer, on doit toujours se comparer à lui aussi. Et ça nous coupe le sifflet, quoi. On n'a plus rien à dire quand on se compare à Jésus-Christ. On vient, on n'a rien à envier à personne. On n'est pas plus haut qu'un autre. Et on se rappelle qu'en Jésus-Christ, on est tous égaux. Et que si Dieu devait nous traiter comme on le mérite, eh bien, on mérite tous l'enfer, quoi. Et que dans sa grâce, Dieu, en Jésus-Christ, le prix qu'il a payé sur la croix, eh bien, Dieu nous ouvre les portes du ciel. Et dans l'Apocalypse, il nous dit, « Voici, j'ai ouvert une porte devant toi qui ne se refermera plus jamais. » Pour les racheter, cette porte, elle reste ouverte. On ne se tapera pas le nez sur la porte quand on va arriver en haut. Cette porte, elle est ouverte pour les racheter. Parce que Christ nous a ouvert les portes du ciel. Est-ce que ça vous réjouit ce matin, ça? Amen.